Il doit ponctuellement répondre aux mêmes questions. Pourquoi vous faites ça? Comment vous le faites? Qu'est-ce que vous mangez? Et est-ce que vous êtes cinglé?
C'est vrai. Je pense que c'est bien résumé. C'est très très bien résumé. Je pense que c'est les 4-5 questions qu'on nous pose tout le temps.
Bonjour, c'est Anne B.
Tu es sur Storylifique.
Ta mission ce jour?
Te faire du bien tout en faisant du bien
à la planète.
Comment?
Retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves.
Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire.
Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com.
Maud et Fred sont des trailers, et même des ultra-trailers, et sont en plus carrément ouf.
Là, je fais référence au titre de leur podcast, puisque ces deux passionnés de trail ont un podcast qui ne parle que de ça. Alors plutôt que d'inviter un trailer pour cet épisode de podcast, je me suis dit, et si j'invitais des trailers, qui sont aussi des coachs, qui en plus interviewent les meilleurs trailers de notre époque, histoire de faire coup double, voire triple. En voilà une idée, quelle est bonne. Alors si tu aimes te dépasser, te mettre au trail, te titille, si ce sport te passionne, ou si tu voudrais savoir ce qui se passe dans la tête d'un trailer qui s'enfile 300 km, ou moins, ou plus, cet épisode est fait pour toi. Maud, Fred, c'est une vraie joie de vous avoir avec moi ce jour pour discuter sans surprise de trail et pour tout savoir sur c'est quoi exactement, comment on s'y met, comment on progresse et les pépites à retenir des meilleurs que vous avez rencontrés.
Bonjour Maud et Fred.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Oui, on est très contents d'être là.
C'était vrai, hein, quand je disais que c'était un plaisir, c'est vraiment vrai. Hein. Je suis trop contente. Je vous écoutais encore hier en courant.
Ben oui,
c'est original. Je me disais, chouette, c'est demain. Alors, moi, en tout cas, voilà, je vous ai découvert grâce à votre podcast, que j'adore écouter quand je cours, parce que j'adore votre énergie, votre bonne humeur. Et en plus, quand je vous entends parler avec tous ces sportifs qui s'enfilent plus de 100 km de course, easy peasy, 24, 48 heures de course, bah, ça m'empêche vraiment de m'arrêter. Parce que moi, ma petite heure, comme ça, parfois, je me dis, oh, aujourd'hui, je le sens pas trop, et trop. Et puis, je me souviens, une fois, je me disais vraiment ça, quand il y a une traileuse qui disait, ouais, bon, là, c'était les 100 premiers kilomètres, donc j'étais encore fraîche. Je dis, bon, d'accord. Je me tais, je continue à courir. On sent pas trop d'excuses, là. Non, c'est bien, mais ça met en perspective. J'avais offert à mon mari un livre de Dean Karnazes, je sais dans ce sens-là, parce que je suis toujours Karzanes, c'est le contraire. C'est un ultra-marathonien, là. Mm-hmm. Et effectivement, parce qu'il voulait se mettre au marathon, j'avais pas fait attention à l'ultra qui était devant marathon. Mm-hmm. Non, le marathon, ça a l'air bien. Et puis, en fait, on s'est marré comme des baleines. C'est vraiment un super livre. Mais après, c'est vrai que le marathon, tu dis, bon,
et moi, ça reste facile.
Plus, on va y arriver, quoi. Moi, je suis pas encore là. Hein. Moi, je fais ce que j'appelle mon trailounet. Parce qu'effectivement, je cours dans les bois, mais c'est tellement petit, c'est un trailounet, c'est pas un trail.
Mais c'est un trail quand même, hein, parce que, en fait, le trail, on a l'impression que c'est que de la longue distance, mais pas du tout. C'est que ce soit 1 km ou 100 ou 1000, c'est la même chose, ça s'appelle trail. Donc, faut pas minimiser ce que tu fais.
Oui, c'est gentil, ça. Bon, on n'est pas encore à votre niveau. C'est vrai que je commence souvent mon podcast par la phrase « Si eux l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire ». Donc voilà, ici, c'est... C'est plus modeste de mon côté, mais c'est bien, tu me mets en confiance là. Vous voyez, c'est des coachs, hein, on vous l'avait dit.
Alors, moi, je suis pas coach, c'est Fred le coach.
Ouais, bah, tu pourrais l'être, voilà.
Apparemment. Et oui, coach mental et coach dans la parole.
Oui, c'est ça, voilà.
Dans la motivation.
Ben ouais, c'est ça, vous feriez sacrément la paire, faut envisager ça. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer, honneur aux dames.
Alors, moi, c'est Maud. Comment je pourrais me résumer? Entrepreneuse et traileuse. Voilà, je pense que c'est les deux mots qui me caractérisent dans le milieu sportif, donc dans le trail. Et on pourrait croire que ça fait très longtemps que je suis dans la course à pied, mais pas tant. Ça fait un peu moins de 10 ans que je cours vraiment. Donc, c'est possible de passer de quelques kilomètres à des centaines de kilomètres.
Et ça, ça m'a un peu rassurée, j'entends qu'il y a un peu tous les âges. Hein. Je me dis, bon, ça va aller alors.
Il n'y a pas d'âge, t'as le temps.
L'objectif, c'est de courir le plus longtemps possible, c'est ça. Enfin, le plus longtemps possible dans l'âge.
Non, c'est bien, ouais, j'entendais... Enfin, on va en parler parce que sinon, là, j'ai déjà commencé à parler de tous vos épisodes. Je ne vais pas te laisser te présenter, donc ouais. Et puis alors... C'est lequel des deux qui avait fait 10 ans d'athlétisme là? Ça, c'est Fred. Fred,
ouais, c'est moi. Donc moi, Frédéric, je viens du sport depuis tout petit. Donc j'ai commencé pendant l'école. Hein, je faisais de l'athlétisme et puis après mon cursus après le bac, j'ai fait STAPS, donc dans le sport, une licence entraînement sportif. J'ai un brevet d'état athlétisme pour justement devenir entraîneur. J'ai commencé par être entraîneur d'athlétisme. Et puis après, je me suis mis progressivement au trail aussi, et c'est ce que je fais depuis 2010. Voilà, donc en tant que pratiquant, en tant que coach, et puis là, en tant qu'entrepreneur avec Maud, avec la création de l'agence de voyage et d'événements Trail the World qu'on a créé en 2018.
Ouais, Trail the World, oui, on va en reparler, évidemment, c'est trop chouette comme projet aussi. Alors, c'est quoi le trail pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Parce que...
Allez, Fred,
on va commencer par une définition.
C'est simple, en fait, c'est très simple. Le trail, c'est...
Fred, sur Maud, Wikipédia, vas-y.
Le trail, c'est quand vous courez, mais vous ne courez pas sur de la route. Dès lors que vous êtes sur un sentier, vous faites du trail. Que ce soit 3 km ou 500 km, vous faites du trail. Le trail, c'est aussi simple que ça. C'est courir en dehors de la route, donc sur des sentiers, en plaine, en montagne. Souvent, en fait, les gens réduisent le trail à courir en montagne des longues distances. Mais non, le trail, c'est on peut courir autour de chez soi, faire 5 km dans une plaine. Du moment que ce n'est pas sur la route, vous faites du trail.
Et peu importe la vitesse aussi.
Peu importe la vitesse.
Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent pas trailer aussi par la distance, mais aussi par la vitesse. Si vous vous lancez sur une course et que vous passez les barrières horaires, vous faites du trail. On est dans le trail. Il ne faut pas se dire qu'on est juste randonneur. Il y a quand même cette envie d'aller au bout d'une course. Et ça, c'est important de le préciser et de le rappeler à des gens qui auraient peur de se lancer en se disant « moi, j'arriverai pas à finir ». Si, en fait, si tu finis cette course dans les temps, tu seras au même titre que la première personne qui est arrivée, trailer ou traileuse, du coup.
Et le trail, c'est aussi, ça peut être beaucoup de marches. C'est ça, en fait, aussi que parfois les gens ont du mal, ceux qui ne sont pas dans le trail ou ceux qui veulent s'y mettre ou les coureurs sur route qui veulent se mettre au trail. Ils ont peur de ça parce qu'ils se disent « s'il y a une montée, je vais être obligé de courir en montée, je ne peux pas, je ne suis pas capable, etc. » Non, le trail, c'est aller d'un point A à un point B, peu importe le temps que tu mets, que ce soit en marchant ou en courant, on fait du trail.
Non, c'est vachement sympa. Après, ça peut être bien, bien impressionnant quand même. Hein.
Oui, en fait, c'est là.
Il y en a qui ont des beaux dénivelés quand même. Hein.
Oui.
Bon, plus il y a de dénivelés, effectivement, plus la difficulté est grande parce qu'il va falloir avancer à une allure régulière, sans trop se fatiguer, mais en essayant quand même de pas être à l'arrêt.
Ouais, c'est ça. Oui, bon, c'est ça. En préparant avec mes petites filles, parce qu'elles ont des questions pour vous, hein, comme toujours. voilà, on regardait un petit peu. C'est là que j'avais été étonnée de voir. Il y avait quand même beaucoup de marches dans un qui faisait. C'était un amateur qui avait filmé sa course. Hein. Et puis, mais bon, par contre, oui, quand tu vois François Dan, tu dis sur la diagonale des fous, tu te dis ouais, c'est bien le nom. Ça, c'est bien ça. On comprend pourquoi ça s'appelle.
Ça porte bien
ça.
Son nom, ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est bien. Alors, vous rentrez, vous en êtes où? Vous êtes dans quelle distance en général?
On a deux formats de prédilection. Moi, je dirais que j'aime bien de 60 à 160 km. Et Fred, il est sur une autre catégorie.
Non, pas forcément une autre catégorie, mais disons que voilà, j'ai déjà fait un peu plus long. J'ai été jusqu'à 350 km. Le tort des géants, donc ça a duré 6 jours la course sans trop dormir. En fait, moi j'aime bien quand c'est long parce que on n'est pas obligé de trop courir, on n'est pas obligé de faire monter le cardio. Voilà, c'est du trail confort, on va dire entre guillemets, même si ça peut faire peur si on dit un 160 km, c'est un trail confort, bien mettre des guillemets, mais
oui, c'est, on n'a pas la même notion du confort.
Mais c'est confort dans le sens où
on va pas être dans le rouge.
On n'est jamais dans le rouge et on n'est jamais essoufflé. Donc en fait, c'est vraiment comme si on se baladait. C'est une balade rapide qui va durer longtemps. Donc après, c'est d'autres paramètres. C'est lutter contre le sommeil, et contre les différentes conditions climatiques, etc. Et ça pendant 24, 48 heures ou plus. Donc les facteurs limitants, c'est la fatigue. Mais en tout cas, au niveau physique et au bout d'un moment musculaire, plus on court longtemps, en fait, au bout d'un moment, musculairement, on a plus mal. J'ai fini mon 350 km, j'avais absolument zéro douleur physique, c'est juste que je m'endormais toutes les 2 heures, je m'endormais en marchant, donc on est obligé de s'arrêter pour dormir, parce que voilà, sinon on s'endort en marchant et du coup on tombe, mais il n'y a plus de douleur, c'est beaucoup dans la tête et dans la fatigue physique. Et donc c'est ça que moi j'aime, c'est prendre le temps et de jamais souffrir. Voilà, moi, mon mot souffrir, c'est monter dans le cardio, être essoufflé, quoi. Ça, je peux pas. Ah donc, non, c'est en fait, horrible. C'est pour ça que je fais du long. Pour moi, c'est du confort. Mmh. Voilà.
Mais depuis peu, Fred, avant, il aimait bien beaucoup de dénivelé et des longues distances, enfin, des distances assez correctes. Maintenant, il cherche un peu moins de dénivelé pour courir plus. C'est vrai,
oui,
hein, depuis récemment. Et moi, inversement, je veux moins courir et plus avoir de dénivelé. Donc, en fait, on a des pratiques de prédilection, enfin des distances de prédilection, mais en fait ça évolue en fonction aussi de nos envies et surtout avant tout parce que c'est une passion. C'est pas on n'est pas sportif professionnel, on est des sportifs amateurs. Ça il faut vraiment le rappeler. Même si ça semble incroyable de réaliser 300 km ou 160, on fait avant tout ça pour le plaisir. Bon, certaines personnes vont pas se dire que c'est du plaisir, mais il y en a parce que on est dans la nature, on est avec d'autres personnes qui ont la même passion. On rencontre des personnes incroyables qu'on n'aurait sûrement pas rencontrées pendant une course ou même dans la vraie vie. Et c'est ça qui nous anime aussi dans le trail. C'est vraiment aller dans l'extérieur et être dans une petite bulle aussi, le temps de 10 heures, 20 heures ou 3 jours ou même une semaine.
Et après,
ouais, ça revient tout le temps, ces histoires de bulles. Hein.
C'est, ouais. C'est quoi la bulle du trailer?
La bulle, c'est qu'en fait, on est dans un monde complètement parallèle. C'est-à-dire que c'est... on fait souvent le parallèle entre faire un trail long, un ultra. Donc l'ultra, en fait, en fonction de chaque personne, hein, ça peut être peut-être pour toi, 30 km, ça va être ton ultra. Pour d'autres personnes, ça va être 200 km. Et en fait, on compare ça souvent presque à la vie. Donc, c'est-à-dire qu'on a une idée, on va s'inscrire à une course, on va prendre le départ, on va un peu stresser. On va partir, on va être content, on va avoir l'euphorie, on va avoir les rencontres, on va avoir des gros coups de mou, mm-hmm. quelle que soit la distance. Hein, même nous, quand on va courir un 20 km, on a forcément aussi des coups de mou. On a des coups de mou, après on sent qu'on est reboosté. Et puis en fait, c'est comme si on se faisait une vie pendant la course. C'est-à-dire que voilà, c'est ça, c'est une vie parallèle. Donc on quitte le monde réel, on va faire notre vie sur la course. Et puis bah, à l'arrivée, on est content, hop. Et là, quand on rentre chez soi, bah, on sort de la bulle, on revient dans la vie réelle et on a fait notre petite vie à côté.
Mais on apprend aussi beaucoup sur soi pendant ces moments de bulle parce qu'il y a les rencontres, il y a la difficulté qu'on rencontre parce que chaque course, il y a de la difficulté. Et cette difficulté-là, elle nous fait grandir aussi quand on revient dans cette réalité de la vraie vie.
Qu'est-ce que ça t'apporte, hein ? C'est d'être confronté à tes limites, les repousser comme ça. Est-ce que ça t'apprend sur toi, justement ?
Bah, je pense que de quoi t'es capable. C'est-à-dire que au départ, tu commences. Enfin, moi, j'ai commencé donc en 2013 à courir. Au départ, je courais 10 minutes et je crachais littéralement mes poumons. C'est-à-dire que c'était vraiment un enfer pour moi.
Oh, qu'est-ce que tu me rassures !
Il faut vraiment se rappeler. Et je m'en rappelle de la première fois où j'ai vraiment décidé de courir. Et en fait, ça, faut pas l'oublier. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à faire un 20 km. Puis après, j'ai réussi à faire un 40 km. Après, j'ai réussi à faire plus. Bon, j'ai fait je suis passée de 40 à 177. Bon, c'est pas la chose qu'il faut faire. Mais en gros, je me suis rendu compte que j'étais capable. Et en fait, il y a de moins en moins de choses tangibles dans la vie dans laquelle on est. Et en tout cas, moi, à l'époque, c'était le cas. C'est ça qui m'a emmenée vers la course à pied. D'avoir des choses qui étaient beaucoup plus tangibles et mesurables. C'est-à-dire que si je suis capable de courir un 40 km ou même un 20 km ou même un 10 km, ben, je suis capable de réaliser un projet. Je suis capable de faire telle et telle chose. Et en fait, du coup, ça conforte aussi, ça donne confiance. On en parlait il y a même pas une semaine avec Fred. Chaque personne a une raison pour laquelle elle court. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi je cours parce que ça m'a aussi donné confiance, mais aussi parce que dans ma famille, il y a des personnes qui étaient dans le sport et dans le dépassement de soi, et donc ça m'a donné aussi cette valeur-là. Mais ça apporte aussi la confiance, et puis aussi on est dans la nature. Être dans la nature, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que cette bulle-là, il y a très peu de moments pendant lesquels tu pourras être que dans la nature pendant X heures. À moins que tu le décides, c'est très rare. Aujourd'hui, on est beaucoup sollicité, on a beaucoup de choses à faire, enfin, en tout cas, quand tu travailles, peu importe la chose que tu fais, et ben ce moment-là, il est pour toi pendant ces heures ou ces jours.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un luxe hein, d'avoir du temps.
C'est ça.
Oui, aujourd'hui, ouais.
Ouais. Oh, trop bien, j'adore. alors, comment est-ce qu'on se met au trail? C'est juste, voilà, on a envie de courir et puis on allonge ou il y a des petites astuces?
Alors moi, je suis pas le bon exemple, donc
non, ça on a compris, voilà. Non, parce
mais je pense
60,
qu'il faut demander à Fred, il faut demander à Fred, bah, c'est lui l'expert.
C'est simple, hein, il faut une paire de baskets et on peut sortir courir et s'y mettre, en fait. Mais il faut accepter, en fait, aujourd'hui... 80, j'ai pas de pourcentage, j'ai pas de stats, hein, mais moi je constate que par exemple 90%, 95%, 90%, 95% pour les Belges.
Oh que t'es gentil, ah, il traduit, on comprend. Hein.
Des coureurs, en fait les coureurs s'entraînent trop vite, parce qu'en fait ils sortent de chez eux, que ce soit des experts ou des amateurs, vont courir trop vite. Et en fait, le fait de courir trop vite, on peut peut-être prendre moins de plaisir et se dire que c'est difficile. Bon, Maud l'a dit, voilà, au début, courir les 10 minutes, toi aussi, tu l'as dit, hein, courir les 10 minutes, vous crachez vos poumons, bon, bah, c'est parce que du coup, vous avez couru trop vite. Vous êtes parti, vous avez couru trop vite et du coup, bah forcément, on s'arrête assez vite. Donc, comment se mettre au trail, c'est facile.
Oui, et puis j'avais clairement aucune condition. Hein,
oui, il y a ça aussi. Mais,
oui, il y a ça aussi.
Tu n'as jamais
mais je me souviendrai aussi toujours du jour absolument magique où je me dis, bon, allez, ça y est, dans 2 minutes, je suis au bout de ma vie. Et puis, ces 2 minutes sont passées et il ne se passait rien. Je me dis, c'est quoi aujourd'hui là?
Et tout va bien, ouais.
Et puis après, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai bouffé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, tu dis, bon, bah, ça va me tomber dessus. Puis ça ne m'est pas tombé dessus avant encore bien plus longtemps, quoi. Tu dis, oh oh, ça bon, c'est ça qui se passe. Oui, mais c'est gay, en fait.
Mais en fait, c'est ça, c'est prendre le temps.
J'ai vraiment pris goût.
Ouais, faut prendre le temps, faut alterner marcher-course au début. Au début, bah, on trottine, on peut marcher. Et justement, c'est aussi ça l'intérêt du trail, c'est que peut-être dans la tête, c'est plus facile d'accepter de marcher. Si vous êtes en forêt, il y a une petite montée, vous marchez. Ça descend, vous recourez. Et voilà, en fait, te mettre au trail, c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Faut juste se dire, je sors 30 minutes ou 20 minutes ou 10 minutes et je fais ce tour-là, peu importe le temps que je mets. On peut se dire aussi, on pourrait se dire, j'ai parlé tout à l'heure, moi, que j'aimais pas être essoufflé. Ça pourrait être aussi un objectif pour toutes les personnes qui veulent se mettre au trail, c'est sortez autour de chez vous, mais essayez de ne pas être trop essoufflé. Donc, vous pouvez commencer peut-être en trottinant. Vous en avez marre au bout de 2 minutes, vous marchez pendant 1 minute. Vous reprenez et voilà, faites-vous plaisir comme ça, sans partir tout de suite avec l'idée de faire 2 heures ou de vous inscrire à 50 km 3 mois plus tard. Voilà.
Oui, sinon c'est un coup à se dégoûter, hein. Voilà. C'est ça. Hein.
Oui, c'est ça.
Tout est basé sur le plaisir et l'envie. Si ça fait un an que tu cours 30 minutes et que tu as envie de faire un peu plus loin, bon, bah, tu te dis, ok, en fait tu pars le même rythme, donc tu as l'expérience de courir 30 minutes, donc bah, tu pars. Peut-être un peu moins vite que ce que tu fais d'habitude. Et puis, bah, vous allez tenir facilement 1 heure parce qu'il y aura l'expérience et parce que vous avez l'envie, vous avez le plaisir et que vous avez l'habitude. Et en fait, c'est marche après marche. C'est comme ça. C'est avec l'expérience. Et ça se fait tout seul, en fait. C'est pareil. C'est pas parce qu'on a l'habitude de courir 1 heure qu'on se dit 3 heures, c'est impossible. Tout est possible du moment qu'on s'en donne les moyens, qu'on se met à notre niveau et qu'on n'essaye pas de suivre des gens, c'est facile.
Puis on a le droit de revenir aussi à des distances qui nous plaisent plus, parce que, enfin là, moi, je prends mon exemple, le 177 km, ça a été super et en même temps, ça a été une grosse épreuve de dormir, d'être dehors de nuit. Et il m'a fallu attendre, et ben là, on est 5 ans plus tard, pour me dire, ok, je suis prête à en refaire. Parce que j'avais plus de plaisir. Je me disais, 2 nuits dehors, c'est pas terrible. Et après, une mauvaise expérience en trail aussi, un moment où j'abandonne et je me dis, bah non, en fait, je suis pas faite pour ça. Et en fait, bah, tu te remets en question et tu dis, bon, bah, où est-ce que je prends du plaisir? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Et tu reprends le temps de te dire, bon, bah voilà, ça, c'est là où je prends du plaisir. Et est-ce que je suis prête maintenant à aller plus loin de nouveau? Et il faut vraiment s'écouter. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de primordial pour pouvoir progresser et aller vers la distance ou le kilométrage qu'on veut.
Et ouais, ça m'a bien rassuré aussi le coup qu'on peut marcher. Il y a la méthode Cyrano dont vous parlez dans un de vos épisodes.
Hein. Ah, tout à fait.
Ça, oui, je m'en souviens peut-être. La méthode Cyrano, c'est prendre le temps de marcher, de repartir, etc.
C'est alterner course et marche, avec des timings bien précis.
Ouais, mais disons que en fait, il faut ça, c'est des méthodes générales, mais il faut adapter en fait à chaque personne en fonction de là où elle est mieux. Hein. Il y en a qui vont faire une petite pause, il y en a qui vont courir, rester que en course, mais très lent, très lente. Il y en a qui vont courir vite et qui vont faire plus de pauses et repartir. Voilà, c'est en fonction de l'expérience et des physionomies de chaque personne. Ça. Mais effectivement, ça, sur une course, par exemple, comme on organise les Infinity Trails, donc c'est des courses sur le format Backyard Ultra où c'est une boucle de 6,7 km avec un départ toutes les heures. Donc si on fait la boucle en 50 minutes, on a 10 minutes de pause obligatoirement avant de repartir. Et en fait, on se rend compte que les gens qui ont l'habitude de faire de l'ultra trail, donc faire des 100 km, des 200 km, c'est un format qui les perturbe, alors que les gens qui n'ont pas l'habitude, des gens qui n'ont pas l'expérience, par exemple qui courent 10 km ou 20 km, et ben c'est des gens en fait qui se retrouvent à la fin à faire 50 km, 80 km, 100 km. Mmh. Parce que il y a cette pause et parce que il y a pas de notion de vitesse en fait. Là, le but de cette course, par exemple, c'est d'arriver juste en moins d'une heure dans les temps, de prendre la pause et de repartir. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait les gens sont capables de faire des choses auxquelles ils ne pensaient pas. Voilà, avec des courses comme ça. Donc en fait, ceux qui ont l'habitude sont perturbés, mais ceux qui n'ont pas l'habitude et qui se disent ils partent pour 3 tours, ben, ils se retrouvent à faire 10 tours. Ou plus, et du coup, ils sont à des kilométrages, ils font 3 fois, 4 fois plus que ce qu'ils avaient jamais fait. Ils sont contents. Et donc ça, c'est la méthode un peu Cyrano, dans le sens où...
Je veux bien croire qu'ils sont contents, oui.
Du coup, il y a l'effort et il y a la pause obligatoire. Donc voilà, c'est une des... Ça peut être une des explications aussi pourquoi il faut prendre le temps et pas partir à fond quand on court.
Et on entend beaucoup parler de gestion de course, évidemment, sur les grandes durées, l'alimentation, le sommeil, mais il y a aussi la tête. Hein, donc, il y a l'alimentation, on va un peu toucher un mot, parce que c'est vrai que c'est un des challenges, c'est de s'alimenter en courant. Je crois qu'apparemment, le trail, on peut marcher, donc c'est peut-être un peu plus facile quand on peut marcher pour manger et puis recommencer à courir que sur les courses où c'est course tout le temps et long format, c'est vraiment une gestion compliquée. Et puis, il y a le sommeil, il y en a qui arrivent à dormir, il y en a qui n'y arrivent pas, et puis la tête, ça c'est vraiment ce qui va emballer le tout et faire qu'on y arrive ou pas, j'ai l'impression.
Il y a une grosse partie, c'est la première chose dont tu as parlé, c'est la partie nutrition. Moi j'y suis assez sensible sur ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent un peu n'importe quoi, parce qu'il y a aussi la partie plaisir hein, dans le trail, quand t'es au bout de ta vie, t'as envie de manger un truc qui te fait plaisir, mais parfois je vois des personnes qui se cassent le bide et qui sont vraiment pas bien et qui peuvent être très mal sur un ultra ou même sur un petit trail parce qu'ils n'ont pas bien mangé ou mangé la chose adaptée. Il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent par exemple du sucre, des gels, des choses comme ça. Et en fait, par exemple, sans avoir testé, bon, déjà les gels, moi, je suis pas pour, mais ça, c'est mon avis perso, parce que
c'est vrai que j'avais parlé avec Inka Bélez, là, qui avait été championne junior de scalpinisme, ce qui est pas non plus une discipline
simple, ouais.
Et elle disait aussi les gels, etc., les trucs tout faits. Elle dit, moi, ça me mettait en vrac, quoi. Alors finalement, elle dit, moi, je les faisais moi-même, mes barres énergétiques.
Voilà, c'est ça, en fait.
Avec du miel,
avec des vrais aliments. Voilà, c'est ça.
Voilà, il y a un gros marketing autour de tous ces aliments pour sportifs parce que les gens sont vraiment prêts à investir beaucoup dans ça pour progresser. Mais finalement, qu'est-ce que toi tu conseilles alors? Parce que là,
je mange la plupart du temps soit des barres que j'ai testées avant et c'est des barres à base de de céréales et de fruits qui sont faciles à manger, parce que ça, c'est important. Parce qu'au bout de quelques heures, tu n'arrives plus à assimiler. J'ai déjà mangé du pain d'épices et c'est la grosse erreur à ne pas faire. Tu n'arrives pas à manger, à rien avaler. C'est très bon le pain d'épices. Hein. Mais en course, à un moment donné, ton corps, enfin, mâcher, etc., ça demande trop d'efforts. Donc, des choses qui soient bien mangeables et assimilables. Je prends des amandes, des abricots secs, parce que ça, c'est quelque chose qui peut m'apporter du sucre. Et je fais aussi parfois mes propres ravitaillements. Bah, je prends l'exemple du 90 km du Mont-Blanc. J'avais fait des rouleaux de printemps que j'avais donné à mes assistants, donc à Fred et ma famille. Et en fait, je mangeais ça parce que c'était frais et que ça me faisait du bien et parce que ça changeait des saucissons et fromages, etc., que tu peux retrouver. Alors, j'ai aussi une problématique, c'est que moi, je suis végétarienne. Donc forcément, ça limite sur la partie ravitaillement. Donc j'anticipe et j'essaie de manger des trucs qui sont digestes. Même si j'ai ça, ça ne veut pas dire que potentiellement, je ne peux pas être mal au niveau de la nutrition, parce que ça peut arriver si on a du mal à s'alimenter, s'il fait très chaud, si on n'a pas les bons apports, parce que parfois, boire que de l'eau, ce n'est pas forcément bon. Et ça m'est arrivé à un moment donné, j'avais une envie de vomir parce que je n'arrivais plus à m'alimenter. Il faisait très chaud, c'était un moment où il faisait peut-être plus de 30 degrés, même en altitude, et c'était compliqué. Mais il faut prendre le temps, se réhydrater, remanger des choses sucré qui pourrait bien nous rassasier, mais sans que ce soit des gels, etc. Donc, ça peut être des fruits, parce que les fruits, ça, le temps qu'on les digère, etc., ça peut être bon à assimiler. J'avais pris du melon, je me souviens, là, j'y pense. C'était vraiment bien parce que c'est enfin, il n'y a pas vraiment d'apport au niveau des calories, mais il y a de l'hydratation, il y a du sucre, et le temps que ça rentre dans l'organisme, c'est plus long que si on prenait du sucre pur, et du coup on n'a pas cette fringale qu'on pourrait avoir par la suite. Mais ça, moi, parce que c'est quelque chose où je l'anticipe avant, je pense qu'il y a peu de personnes qui l'anticipent autant que moi, et je pense que les gens partent en se disant bon bah on prend 2-3 barres et puis on va voir ce qu'il y a sur les ravitaillements. Et c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe, et sûrement c'est un des facteurs d'abandon, même avant la tête. Parce que si on a mal au ventre, si on n'arrive pas à s'alimenter, derrière, s'il n'y a plus de carburant dans la machine, on n'avance pas. Et c'est terrible. C'est terrible. Et après, il y a le sommeil. Et alors là, moi, je suis nulle en sommeil. Après, j'arrive pas à dormir.
Le sommeil et le mental, où là, en fait, au bout d'une certaine distance de course, c'est le mental qui va prendre le relais. Et qui va être à 80%, ça va être 80% mental, 20% physique. Donc ça, c'est là où faut l'avoir travaillé. Il faut avoir envie de ce qu'on fait. Il faut être content de ce qu'on fait. Et pour continuer à avancer. Après, effectivement, il y a le sommeil. Et là, le sommeil, c'est pareil. On est tous différents. Mais au bout d'un moment, on est obligé de dormir. Quand on va dépasser 40 heures, 50 heures, là, on est. Faut voir même avant, hein, il y en a, même au bout de 24 heures, ils ont besoin de dormir. Et donc, c'est différentes stratégies. Soit on peut faire des micro-siestes, on s'assoit sur le bord du chemin, on fait une micro-sieste pendant 10 secondes, pendant 2 minutes. Après, il y en a qui vont se poser une heure, qui vont vraiment bien dormir, déconnecter et repartir. Voilà, il y a différentes stratégies. Mais en fait, au bout d'un moment, tout ça, le sommeil aussi, ça vient avec le mental. Parce que quand on a besoin de dormir et qu'il faut se relever, se remettre ses chaussures, repartir, c'est voilà. S'il n'y a pas le mental, effectivement, parce que comme je le disais tout à l'heure sur ma course de 350 km, en fait, au bout d'un moment, physiquement, il n'y a plus qu'une douleur. On peut continuer. Moi, j'ai fini les 350 km. Ça m'a pris 6 jours. Enfin, 147 heures, c'était 6 jours. Et je suis arrivé, j'étais très fatigué. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais dormi, je ne sais pas, si j'avais dormi 3 heures, bah, en fait, je pouvais continuer. Physiquement, je pouvais continuer pendant plusieurs jours. Mais après, effectivement, c'est le mental et c'est le sommeil qui nous fait arrêter. Donc c'est ça, d'où la grosse importance de la tête au bout d'un moment.
Et puis c'est difficile aussi, on a des moments d'euphorie qui sont difficiles à, qu'il faut canaliser. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça et Fred, il l'est pas et je l'admire pour ça. C'est que moi, j'ai des gros moments d'euphorie où je suis en forme, j'ai pété la fin, je dis ouais, trop cool, trop génial, machin. Et des moments où je suis vraiment au fond et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Je suis en larmes et c'est bien d'arriver à, on va dire, aligner cette courbe. Plutôt et avoir l'objectif en tête. Est-ce que Fred arrive à faire énormément en se disant bah voilà, un pied devant l'autre et on avance. Et ça ça il faut essayer de le garder en tête, de pas trop capitaliser sur les moments euphoriques et se dire que de toute façon à un moment donné quand on est en bas, ça peut que remonter.
Et point de vue mental, alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes l'esprit ou t'as des petites phrases que tu te répètes ou comment tu travailles ce mental?
Plein de techniques après.
À part écouter ouf pour ceux qui
pas que... nous écouter, vous dire hop, allez hop, on y va, c'est parti.
Non mais il y a la mentale, il y a plusieurs accroches mentales, accroches et approches. C'est bien de se rappeler les moments positifs dans sa vie. Quand vous êtes au plus mal, en fait, dites-vous d'une qu'il y a toujours pire que vous. Après, vous pouvez vous dire qu'il y a des gens qui vous suivent et que voilà, on peut pas arrêter parce qu'il y a toutes les personnes derrière auxquelles vous avez annoncé que vous étiez sur la course et que voilà, vous faites des posts etc. pendant la course ou on peut pas arrêter parce qu'il y a tout le monde qui nous suit. Et après, ce qui marche bien, c'est essayer de s'ancrer des images positives. Quand vous êtes au plus mal, il faut essayer de se remémorer des moments positifs. Que ce soit des moments d'arrivée, d'autres courses que vous avez vécues, où vous dites en fait, vous savez que après la ligne d'arrivée, vous êtes content, vous êtes fier, etc. Et donc, il faut s'accrocher à ça. Et il faut parfois en fait se mettre dans un état de mentalisation extrême en se disant, il faut essayer de ressentir ce que vous avez vécu lors de votre mariage, la naissance de votre enfant, quand vous avez passé 2 semaines de vacances au soleil, que c'était bien. Et en fait, il faut tout faire pour sortir de la course et sortir du moment où vous êtes mal. Donc, vous mettez du coup dans une autre bulle. Vous êtes dans la bulle de la course, mais il faut ouvrir une autre bulle dans votre tête. Voilà, ça vous fait sortir et ça vous fait avancer sans penser à votre douleur. Et puis, en fait, jusqu'au moment où vous êtes mieux. Et du coup, là, vous reprenez conscience avec la course et vous continuez d'avancer.
Il y a une autre technique aussi que moi, j'utilise, c'est je compte pour me redonner. C'est vraiment pas c'est super de faire ça, mais c'est vrai que moi j'y arrive pas du tout, mais je compte donc de 1 à 30 où j'ai une musique en tête et je la chante dans ma tête. Parce que comme ça je pense à autre chose. Mais c'est ça, c'est tromper l'esprit pour le faire avancer. Moi je le mets sur des trucs très simples, mais c'est vrai que le positif ça peut faire que avancer, mais c'est difficile.
C'est dur hein.
C'est super c'est difficile très, très dur, d'y penser quand on n'est pas bien.
Voilà, exactement, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de penser à tout ça, on n'arrive pas à penser à tout ça.
C'est ça.
Donc faut vraiment se forcer, c'est ça. Après il y a la méthode, moi, ce que j'arrive à faire assez bien, c'est ce que j'appelle un peu le mode robot. C'est-à-dire, il faut retirer toutes les pensées qu'on a dans la tête. C'est aussi très difficile, hein. Mais si on se retire tout ce qu'on a dans la tête, on n'est plus conscient de ce qu'on fait. Donc, en fait, on met un pied devant l'autre et on avance. On ne se dit pas on est mal, on ne se dit pas il fait beau, on ne se dit pas il y a du monde à côté de moi. On ne se dit rien du tout. On avance, on est là avec les bras, les bâtons, si on court avec des bâtons, un pied devant l'autre et on avance et il ne se passe rien. Et du coup, on déconnecte, mais on continue d'avancer. Ça arrive au bout de plusieurs heures, voire plusieurs jours, plusieurs nuits, hein, parce que c'est souvent quand on est très fatigué et qu'on a besoin de dormir, en fait, on arrive facilement à se mettre dans cet état à ce moment-là. Parce qu'on est tellement fatigué qu'on pense à rien et que du coup, on arrive à avancer sans se dire qu'on est mal, sans se dire qu'on est bien. On avance parce qu'on avance et c'est tout, quoi.
Ouais, c'est bien. C'est toutes des méthodes en fait, qui peuvent être utilisées aussi les unes après les autres, quoi. Effectivement,
c'est ça.
Oui. Fatigue avancée, ça marche. Au début, plutôt ça. Mais c'est marrant, hein, parce que cette histoire de repenser à des moments positifs de manière très précise, c'est la troisième, quatrième fois que je l'entends dans le podcast. Et sinon, chanter, c'est vrai que ça marche. Moi, j'arrivais pas à faire un truc en équitation quand j'en faisais. Et mon prof m'a dit « chante ». J'ai dit « quoi ?»« Tu chantes ce que tu veux, mais tu chantes. » Et tout haut. Et il dit parce que tu sais pas à ce moment... tu dois lâcher le mental en grande partie et tes gestes deviennent un peu plus réflexes et bah ouais, j'ai réussi à faire le truc quoi. Ah, mais donc, oui, chanter, je sais, ça marche, Maud, je suis d'accord avec toi.
Et il y a aussi les objectifs intermédiaires. C'est se mettre des objectifs intermédiaires, c'est aussi important parce que quand on part pour une course qui est beaucoup plus longue que ce qu'on a l'habitude, hein, je vais pas donner de distance parce que pour moi, un 30 km, ça peut être un ultra si on n'a pas l'habitude, mais disons que si on se met un objectif beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude, il faut se mettre des objectifs intermédiaires et c'est très important. Moi, quand je faisais de l'athlétisme, je préférais 1000 fois faire du 400 mètres haies que du 400 mètres plat. C'était beaucoup, beaucoup plus difficile de faire du 400 mètres plat. Pourquoi ? Parce que on part et l'objectif, c'est quoi ? C'est le chrono de la ligne d'arrivée. Alors que quand on fait du 400 mètres haies, et ben l'objectif, on ne pensait que à la haie suivante parce que y a tout un système de foulée, etc. Et si on pense pas à cette foulée, bah on va mal passer la haie et finalement le chrono à l'arrivée, on sait qu'il sera pas terrible.
Ouais.
Objectif les ravitaux, ouais. C'est ça, ouais, les ravitaux, le l'arbre qui est un peu plus loin,
le sommet de la montagne.
Le sommet de la montagne, voilà, c'est sans chercher à aller absolument à la ligne d'arrivée. Après, c'est vrai que c'est important. Plus c'est long, plus c'est important. Hein. Quand on a fait
150, ça je l'ai entendu plein de fois aussi.
Quand on a fait 150 km et qu'il reste 200 km, si on se dit
il reste
200 km, on s'arrête là et on rentre en voiture.
T'arrêtes, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça. Il faut aller de point en point, d'objectif en objectif pour aller à l'arrivée. Ça aussi, c'est important. Ouais.
Le Français le plus jeune qui avait atteint le pôle sud, que j'avais eu aussi en interview une fois, c'était Mathieu Tordeur.
Oui.
Tout à fait.
Il disait aussi que ça, à un moment, voilà, c'est 52 jours, c'est quand même long, quoi. Et il dit, si tu vois que t'as encore à X centaines de kilomètres du pôle sud, tu dis, oh, non, ça va jamais aller. Mais il dit, là, effectivement, lui, ça faisait par 19 minutes et puis il avait une pause d'une minute où il pouvait se manger un petit truc et puis voilà. Et c'était toujours son objectif suivant, quoi, la prochaine pause. Quand les jours où c'était un peu plus difficile, c'était la prochaine pause. Et ça tombe, c'était pas 19 minutes, moi, les chiffres.
Non, mais je pense qu'il faut simplifier.
Mais c'était vraiment très, très court comme ça.
Ouais.
Et vraiment, l'objectif, c'était la petite friandise, la petite pause et pas penser à, alors qu'il y avait peut-être encore 30 jours devant lui, hein. Mais c'est, il y est arrivé, quoi. Donc, c'est ça que c'est encourageant aussi, quoi, de dire, non, ils sont pas super humains, etc. Mais le coup des petits pas
on est comme tout le monde. Hein,
ça marche à fond.
Juste,
hein.
Voilà. C'est juste trouver
les
bonnes techniques. Et en fait, moi, je pars du principe qu'en fait, on peut tous réaliser ce qu'on veut. Toi, Anne B, si demain tu dis que tu veux faire un 200 km, tu es capable de faire un 200 km. Mais oui, voilà, il faut
avoir
d'une,
envie.
D'une, tu l'as pas ancré dans ta tête. De deux, il faut avoir envie. Et de trois, il faut t'entraîner pour. Mais tu es capable. Tout le monde est capable.
Ça viendra peut-être, hein. Ouais. Ça viendra peut-être, hein. Ouais. Là, ce jour-là, je vous appelle. Hein.
Et ben avec plaisir. On sera ravis de l'apprendre, en tout cas.
C'est gentil. Tu m'avais parlé de quelqu'un qui faisait carrément une to-do list à propos de gestion mentale de course.
Oui, Guillaume Arthus, qu'on a eu dans notre podcast. C'est une personne qui a battu le record de la Via Alpina. La Via Alpina, c'est toute la traversée des Alpes. Hein, donc, c'est 2600 km. Il a fait ça en 44 jours, en autonomie complète. Et en fait, c'est...
Et sans contourner les montagnes, tu...
Évidemment, non, évidemment.
Non, tu vas droit dans le dur. Hein. Là, on...
Ouais, c'est ça, quoi.
Il y a zéro... Parfois, il n'y a pas de village où il disait qu'il y avait quelques villages où il pouvait retrouver à manger. Parfois, il avait certains jours où il n'avait pas assez à manger. Mais c'est pas une... je crois que ce n'est pas une to-do list qui s'est fait. C'était plutôt une carte mentale, un planning de...
un plan de
décision. C'est-à-dire que dans telle situation,
oui,
j'agis de telle manière et dans telle autre situation, j'agis de telle manière. Mais il a mis 4-5 ans à se préparer à tout ça et il s'est fait des... D'ailleurs, on parle d'objectifs intermédiaires. Il a participé à certaines courses, notamment à une course qui nous a assez marqué, c'est le tunnel ultra où en gros, tu fais des allers-retours dans un tunnel pendant X heures. Ça trompe les
Quand
les
sens.
Quand
on parle X heures, c'est 50 heures.
Oui, voilà, pardon.
C'est une course de
j'ai plus les chiffres.
200 miles, je crois. Donc 200 miles, ça va faire 300 km.
Donc, pendant deux jours, tu fais des allers-retours dans un tunnel. Donc, pas de lumière, que la lumière des néons. Donc, on est très perturbé par ça. Et pour lui, ça l'a aidé à comprendre aussi comment son organisme allait être perturbé, parce que pendant 44 jours, il n'allait pas du tout être dans un environnement non hostile, enfin, même si il y a pas autant d'animaux, etc. Mais c'est-à-dire que être en montagne pendant tant de jours, tant d'heures, avec un sommeil limité et d'avancer sans cesse, c'est ultra compliqué. Donc il s'est fait cette carte mentale, ce plan de décision qu'il a bien étudié, et ça lui a permis de réussir sa traversée comme il le souhaitait.
Parce qu'effectivement, on peut tous, des erreurs, c'est ça, en fait.
Et le mental, quand t'es en effort physique, le mental, déjà, il y a la moitié des cellules qui, je sais pas, elles partent en vacances, elles disent ailleurs, c'est les trucs moteurs qui viennent, qui disent, bon, allez, partez un petit peu en vacances, nous, on vient devant, c'est à nous qui sommes aux manettes. C'est vrai qu'on voit qu'on devient un peu con, quand même.
On prend souvent des mauvaises décisions. Mmh. On peut se dire, voilà, on a faim. On a tout dans le sac, mais en fait on a la flemme, on n'a pas envie de s'arrêter, de retirer son sac, de se déshabiller, de prendre les trucs dans son sac, de manger. Donc on se dit, bon, on va plus loin, on attend le ravitaillement, il fait mauvais, je vais attendre avant de mettre ma veste parce que là elle est dans le sac, j'ai pas envie de la sortir, le ravito est dans 3 km. Sauf que entre 3 km, on va mettre 30 minutes pour faire 3 km, et du coup l'hypothermie elle est là, et puis on s'arrête, et ça peut être même plus grave. Et lui, ce qui s'est fait, c'est cette plan de décision en disant, s'il m'arrive ça, je fais ça. Quoi qu'il se passe, quoi que je pense dans ma tête, il arrive ça, je fais ça. Et ça, il s'est entraîné, il a fait toutes ses courses pendant 5 ans pour établir tout ça et dire... Il m'arrive ça, je fais ça. Il n'y a pas de discussion possible.
Ouais, mais ça, c'était super chouette. Ouais, j'en avais parlé avec Louis-Philippe Lonck, qui est un explorateur belge, qui a fait des parcours quand même assez impressionnants. Et il était suivi quand il a fait sa traversée de la Tasmanie en hiver, ce qui lui vaut d'être appelé le Mad Belgian là-bas. Mais il ne fera pas dingue. Et il avait été suivi aussi par Paris, un institut, c'est l'université même, je crois. Une psychologue qui étudie les personnes en situation extrême, justement pour voir la prise de décision en situation extrême, comme ça, et on voit bien qu'effectivement les prises de décision, les capacités diminuaient rudement au fil des jours et à cause de tous ces processus. Et donc ils sont en train d'essayer d'établir un protocole de test pour pouvoir tester les personnes en situation extrême, si ça peut être dans des missions spatiales ou quoi, pour voir à quel point elles sont capables encore de prendre des bonnes décisions, quoi. Alors avant, ils font le... Comme ça, ils espèrent pouvoir établir des petits tests qui permettent de voir l'état mental de la personne et pour voir si elle a besoin d'assistance ou si elle est encore capable de gérer.
C'est important, parce qu'effectivement, ça peut être vital. Hein. C'est difficile à faire. C'est très difficile à faire parce qu'on a toujours les pensées. On se dit, on est dans une situation et on se dit, on a notre carte de décision en disant, il m'arrive ça, j'ai ça. Mais on a la pensée en se disant, oui, mais non, c'est débile, je pourrais faire autre chose.
Je pourrais aller plus loin, pas m'arrêter, pas dormir ici. Enfin, il y a plein de choses, de parasites, que tu dis, qui sont pas...
les pensées, et du coup, en fait, il faut accepter d'agir par rapport à ce qu'on a dit. Et...
Ouais, c'est dire, je me fais confiance, j'ai décidé ça à tête reposée, je suis dans le brouillard, je fais confiance à la personne que j'étais, bien au calme dans son salon, quand elle a bien cadré tout ça, testé, retesté, et je sors pas du cadre, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Non, c'est super intéressant. Ça marche pour plein de choses, même dans la vie. Quand
ça marche partout,
entrepreneur,
c'est exactement pareil, c'est ça.
Des 14 heures par jour pendant 40 jours, tu vas pas tenir. Donc, tu vas dire, on fait ça, après fini, pas fini. À ce moment-là, paf, la journée est finie, on arrête, on doit récupérer.
Mais c'est dur, c'est dur.
Ça marche pas. Ouais, vachement. Ça, c'est clair. C'est ça qu'à la limite, il faudrait faire la même préparation que lui l'a fait, quoi. Le dimanche, au calme, on décide, la semaine, je vais la gérer comme ça. Et puis...
ça ne marche jamais.
Mais pourtant, peut-être que ça
aiderait. On est bien d'accord.
C'est sûr, je pense que ça peut aider. Mais en fait, on a toujours les pensées, on est toujours perturbé.
Après tes 350 km, là, il t'a fallu combien de temps de récupération ?
Alors, il y a la partie visible et la partie invisible. La partie visible, comme j'ai dit, physiquement, je suis arrivé, j'avais pas du tout de douleur. Donc, en fait, le lendemain, j'ai pas mal aux jambes, j'ai rien du tout.
Ah, le lendemain non plus ?
Non, le lendemain, non, on n'a plus du tout mal aux jambes. On a physiquement, tout va bien. Après, donc, c'est la fatigue physique générale. Donc, on va dire pendant 2 semaines... Pendant 2 semaines, j'étais très fatigué. Ou voilà, le soir, je me couche à 21h, je me levais à 9h. Et voilà, envie de dormir régulièrement. C'est la première chose.
Mais pas eu du mal à te lever, rien.
Non, physiquement, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que j'ai dit, on a l'impression, mais en fait, non, plus on fait du long, moins c'est physique. Enfin, disons que plus le physique est habitué.
C'est dingue, ça.
Et donc, moins on a mal. Voilà. Donc, pas du tout de douleur physique. Après, donc c'est. Voilà,
et pendant... toi aussi, Maud, c'est la même chose après les longs trucs
Alors, moi, après le. Après, c'est pas pareil parce que.
Je t'ai coupé, je te redemanderai. Hein, mais...
Alors, le 177 km. Moi, j'ai eu des douleurs physiques, mais parce que j'avais eu des douleurs physiques pendant l'épreuve.
Parce que tu avais une blessure.
Voilà, j'avais une blessure. J'ai fait la première partie, tout allait bien. La deuxième partie de la course, c'était terrible pour moi, mais j'ai marché, j'avançais. Donc, j'ai eu mal après. Après, on a forcément... Alors, ça, je pense que Fred ne l'a pas dit, mais les pieds gonflés, hein, forcément. Mais ce n'est pas de la douleur. Mmh. C'est-à-dire que c'est normal. Le corps, il faut qu'il... Enfin, on l'a sollicité pendant X temps. Ouais. Donc, il faut que ça évacue un peu tout ça. Voilà, les pieds gonflés. Mais mis à part ça, non, pas vraiment de... Pas de réelle douleur. Mais par contre, la fatigue extrême, oui, je pense que j'ai dû dormir 12 heures le lendemain de l'événement. Puis après, j'arrivais bien à dormir. Hein.
C'est ça, ouais.
Puis on a très faim aussi, hein. Ça, il faut le rappeler.
On a très
faim,
voilà. Ça, évidemment, il faut récupérer tout.
Voilà, je te redonne la parole. Oui. Je t'ai coupé, mais c'est juste parce que j'étais soufflée. Je me dis, mais il est normal, lui, à pas avoir mal. Faut que je check avec Maud tout de suite. D'accord, non, maintenant, je te laisse continuer ça, parce qu'il y avait une deuxième partie voilà, que tu voulais dire.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a cette partie visible où on sent qu'on est fatigué, etc. Et après, bon, moi, du coup, je prends mon exemple, hein, parce que je pense que les gens sont différents. Mais donc, au bout de 2 semaines, je sentais plus trop la fatigue. Voilà, physiquement, j'avais recouru. D'ailleurs, 2 semaines après, j'avais même accompagné un ami qui faisait une course de 24 heures. Je l'avais accompagné à vélo, donc j'avais de nouveau pas dormi. J'étais encore fatigué, j'étais encore très fatigué.
Non, mais il faut rappeler que Fred a une capacité à ne pas dormir. Et ça, c'est très peu commun de la majorité des personnes. C'est-à-dire qu'il a dormi 8 heures sur les 6 jours. Il y a d'autres personnes qui auraient dormi beaucoup plus. Moi, en l'occurrence, j'ai l'impression d'avoir besoin beaucoup plus de sommeil et j'ai moins besoin que la moyenne. Mais ça, c'est un gros avantage que tu as pour faire de l'ultra.
Oui, c'est sûr que ça aide. Mm-hmm. Donc voilà, au bout de 15 jours après, au-delà, on se sent plus trop fatigué, on va pouvoir recommencer à courir, etc. Mais en fait, après, c'est tout ce que je dis, partie invisible, où en fait, à l'intérieur du corps, tous les marqueurs, voilà, tout ce qu'on peut avoir en déficit, etc. J'imagine que pendant plusieurs mois, mon corps avait encore des marqueurs de cet effort-là. Donc en fait, l'année d'après, ce 350 km, j'ai fait des courses, mais je n'ai pas dépassé 90 km. 90, ça reste beaucoup, mais par rapport à 350, c'est pas beaucoup. Mmh. Et parce que je sentais que j'avais besoin et qu'il fallait, en tout cas, au moins un an sans très grande course pour récupérer tous ces marqueurs. Mais ça, on ne le sait pas. Moi, j'ai ma propre expérience. Après, il y a l'expérience de toutes les personnes qui vont, pendant 3-4 ans, enchaîner plein d'ultras, plein de longues courses. Et en fait, après, pendant 2 ans, on ne les voit plus, ils n'existent plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne se sont pas assez reposés. Mais en fait, eux, dans leur tête, ils n'avaient plus de douleur, tout allait bien. Mais sauf qu'à l'intérieur, c'est pour ça que je dis, c'est tout ce qui est les marqueurs invisibles sont là. Et du coup, on ne peut pas les écouter parce qu'on ne les sent pas, mais il faut...
C'est quoi alors ces marqueurs invisibles ?
Bah, la fatigue.
C'est la fatigue. Après, c'est tout ce que tous les minéraux, tout ce qui se passe physiologiquement dans l'organisme, qui est un peu au ralenti et qui peut être un peu cassé, blessé, sans le sentir. Mm-hmm. Et donc, il faut laisser récupérer l'organisme.
Ah ouais. Ouais, c'est super intéressant.
Donc j'ai fait quelques coupes sauvages pour ne pas avoir un épisode trop long, mais tu retrouveras encore quelques pépites en bonus. Je te donne un peu de contexte parce qu'on n'a pas encore vraiment évoqué les chiffres qui pourront te donner une idée de ce que sont les ultra-trails mythiques. Par exemple, dans un instant, on va parler de l'UTMB, l'ultra-trail Mont-Blanc. Il faut savoir que c'est 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Le temps limite pour faire la course est de 46h30. Le record à ce jour est détenu par François Daen. En 19h, 1 minute 54 secondes. Et côté femme, c'est Courtney Dowalter en 22h30. La Diagonale des Fous, c'est 164 km et 9400 mètres de dénivelé positif. Temps limite 66 heures, ah oui quand même, le record est franco-italien, Ludovic Pommeret et Daniel Young en 23h02 et côté dames, c'est la française Émilie Marotto qui l'a remporté en 2021 avec 29 heures, 54 minutes et 59 secondes. Voilà pour les amateurs de chiffres et de records, et si tu ne connaissais pas cette discipline, tu peux ainsi te faire une petite idée de ce que ça représente. Psst, petit rappel, ce podcast aide la reforestation. Donc si cet épisode te plaît, n'hésite pas à le faire découvrir à d'autres, cela nous aidera à planter encore plus d'arbres avec les oreilles.
J'ai des questions de mes filles pour vous. Alors, la première.
Ah, elles sont posées trop bien.
À quelle heure ça commence l'ultra trail monde blanc?
Je leur montrais des petites vidéos pour préparer, alors elles voyaient que c'était la nuit et tout ça.
Donc en fait, ça ils commence, partent le vendredi soir à 18h. 18h, 18h30, ça dépend, mais ils partent le vendredi soir à 18h. Donc en fait, ils sont très vite dans la première nuit. Ouais.
Et les premiers arrivent à 11h midi à peu près.
Le lendemain.
Le lendemain, oui, pardon.
À quelle vitesse vous savez courir à l'ultra trail monde blanc?
Vitesse minimum et vitesse maximum.
Alors, non, voilà, l'ultra trail Mont Blanc, donc la vitesse, ouais, minimum, maximum, tout ce que tu veux. Donc, là, justement, c'est un bon exemple. Ça se court à combien de kilomètres heure des ultra trails, par exemple, Mont Blanc?
Alors, on a l'impression que ça va vite, mais par exemple, le premier de l'UTMB, donc du l'ultra trail du Mont Blanc, c'est entre 8 et 8,5 kilomètres heure. Donc c'est le premier de la Diagonale des Fous. Tout à l'heure, tu parlais de François Daen qui gagne la Diagonale des Fous. On a l'impression qu'il survole les courses et tout. C'est 6,8 km/h les victoires. Voilà. Donc c'est.
Ouais. Bah, je vais mettre des vidéos de Mont Blanc et de la Diagonale des Fous. On va un peu comprendre que c'est un peu difficile de faire plus que ça aussi, surtout sur la durée. Parce
voilà.
Que,
et après, donc les.
Il faut voir en vidéo pour y croire. Hein.
C'est ça. Et du coup, les derniers, c'est 3,7 km heure, entre 3,5 et 4 km heure sur l'UTMB, la moyenne. Sur la Diagonale des Fous, la Réunion, c'est moins, c'est 2,5, je crois, km heure, parce que le terrain est beaucoup plus difficile.
Non, dénivelé à peu près équivalent, mais c'est le terrain.
Ah,
voilà. Donc en fait, c'est là où on se rend compte que c'est parce que parce qu'en fait,
c'est pas courable.
c'est qu'il y a des cailloux, des marches, et qu'en fait, sur l'UTMB,
c'est vrai, on le voyait dans la vidéo. Ouais.
Voilà, sur l'UTMB, les descentes, on peut les courir. Sur la Diagonale des Fous, la Réunion, parfois, les descentes,
j'en parlais tout à l'heure. Ouais,
et donc voilà, on voit qu'entre 2,5, 3 km heure, 4 km heure. Que bah ça va pas vite hein, forcément.
Non,
mais après
non,
tout
non.
ça inclut les pauses hein, forcément, parce que il y a toutes les pauses au ravito, on s'arrête 10, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et donc forcément c'est inclus dans ça.
Ouais, bien sûr, ça aide pas la moyenne quoi, mais bon, il y a besoin de ça quoi. Alors j'ai entendu par beaucoup de vos invités parler de ces moments assez introspectifs comme ça, dans de sentir en contact direct avec la nature, un artiste qui aimait bien justement la nuit, le calme, un peu plus dispersé, un peu plus de silence. Il y a des moments comme ça que vous préférez dans un trail, et vous sentez aussi ces moments un peu introspectifs où il y a du calme qui s'installe, ou
moi, je dirais, c'est le lever du jour. C'est-à-dire que t'as passé la nuit, t'as peut-être eu froid, t'as peut-être eu mal, tu t'es posé plein de questions, tu t'es dit « Ok, il faut que j'avance » parce que t'as juste le focus de la frontale que tu vois devant toi. Et en fait, tu vois au loin que le jour se lève et que la journée va recommencer. Et ce moment-là, il est génial parce que c'est comme si tu oubliais tout ce que tu avais vécu la veille, et tu dis « Ok, on repart sur une nouvelle journée, on recommence. » Et ça va aller mieux forcément parce que tu as déjà passé la première nuit derrière toi. Ça, pour moi, ce moment, il est ultra chouette.
Ouais, ok. Et pour toi, il y a des moments comme ça, un peu particuliers
dans
ta course
Moi, de manière générale, j'aime bien... courir seul, voilà. Maud, elle discute avec tout le monde. Voilà, elle aime bien être avec des gens, courir. Moi, j'aime bien aussi, évidemment, mais j'aime bien quand je suis seul, justement, parce que on peut se concentrer sur soi, sur sa vitesse. On n'est pas perturbé par ce qui est à côté, par ralentit, si on est à deux et qu'il y a quelqu'un qui va moins vite, du coup, notre vitesse à nous va moins vite. Et c'est parfois plus difficile d'ailleurs, même si on va moins vite. Donc moi, j'aime bien les moments où ouais, je suis seul, où je peux profiter du paysage et regarder. C'est vraiment ça. On est dans sa bulle et on regarde le paysage et en fait, il y a aucun problème, quoi. Il y a plus tous les problèmes du coup qu'on peut avoir au quotidien ou tout. Il se passe rien du tout et c'est génial.
On se sent juste vivant, quoi.
C'est ça. On avance. On est dans la nature, avec la nature, et voilà, il se passe rien, et c'est ce qu'on vient chercher, je pense.
Il se passe rien,
dans
et c'est
ces
bien.
Moments-là.
Ouais. Ouais, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, une histoire qui te motive, qui vous motive ou qui vous booste en quatre coups de mou? Donc là, c'est.
Je pense à ma famille, je pense aux personnes qui me sont chères. D'ailleurs, c'est une des premières choses que j'avais fait. J'y repense. Quand j'ai couru mon premier marathon, je m'étais écrit le nom des personnes sur les bras, personnes qui m'étaient chères. Et comme ça, je savais pour qui je courais. Et donc, du coup, j'étais un peu bariolée au marqueur. Mais voilà, pour dire que je pense que je porte en moi les personnes qui me sont chères et qui me soutiennent au quotidien ou de loin.
Ah, j'aime bien cette histoire de se mettre les noms sur le bras, tiens.
Pour retenir.
Et toi, c'est quoi ton astuce?
J'ai rien de spécial.
Non, mais je pense que tu es très pragmatique, c'est-à-dire qu'il avance, il se dit il va vers la ligne d'arrivée, c'est son objectif. Je pense que c'est lui-même sa propre motivation et c'est ça qui non mais c'est ça qui est génial.
Oui, moi je le fais pas pour quelqu'un, pour quelque chose, pour les réseaux sociaux ou je ne sais quoi ou. C'est vrai que moi je le fais avant tout pour moi et après j'aime bien aussi partager quand les proches sont avec nous dans les aventures. Après ça dépend des courses, mais il y a quand même quelque chose que je me dis assez souvent, c'est que nous on est là, on est en train de souffrir, on a mal aux jambes et tout, et je me dis qu'il y a des personnes qui peuvent pas le faire. Soit par un handicap, soit par X ou Y raison. Et je me dis, à un moment, on n'a pas le droit de se plaindre. On est là, on a voulu, on a payé pour être là. On avance. Voilà.
C'est encore un privilège, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça. On est là, on doit être content d'être là. Mm-hmm. Parfois, c'est dur de se le dire. Et puis après, je m'inspire aussi d'histoires de gens qui ont fait des trucs de fou, des interviews qu'on a eues, etc.
Ouais, j'allais dire, le podcast, ça vous apporte quelque chose alors pour votre sport, pour votre...
Clairement, en fait, toutes les personnalités apportent des choses différentes et c'est ça, c'est super bien d'échanger. On a l'exemple on a parlé de Guillaume Arthus là, où c'est un modèle de décision à prendre, de préparation pendant 5 ans. On a d'autres personnes, je pense à Hélène Dumais qui a mis plusieurs années à finir une course de plus de 800 km, où là c'est la résilience parce que une première année elle n'y arrive pas, elle y retourne, elle n'y arrive pas et elle essaye de tout faire du coup pour y arriver. Après on a d'autres personnes, Daphné de Rouche, Guillaume Calmette par exemple, qui était l'un des premiers, notre premier portrait sur Ouf, où c'est des personnes, ils sont dans le jeu, ils courent mais vraiment parce qu'ils ont envie de faire ça, parce que c'est un jeu, ils s'amusent dans ce qu'ils font, et donc en fait c'est toutes ces différentes approches forcément, nous ça nous aide et ça, on le retrouve du coup dans notre pratique.
Oui, ça aide en fait de rencontrer des personnes et de les interviewer. Moi, je pense à Perrine Fage qui est record woman de l'enduromane, qui nous a parlé de ses tentatives. Elle a fait une première tentative où elle a dû arrêter en plein milieu de ce grand triathlon. En fait, c'est de Londres à Paris, donc course de Londres jusqu'à Douvres. Nage, donc on traverse la Manche de Douvres à Calais, et après c'est du vélo jusqu'à Paris. Et elle a dû s'arrêter lors de sa première tentative dans la Manche à quelques kilomètres parce que le courant n'était pas bon. Et ça faisait des heures et des heures qu'elle était partie. 3 semaines plus tard, elle se relance sur ce défi et elle y arrive et elle bat le record féminin. Donc ça, c'est une force de la nature qui dit, OK, et puis... C'est une personne aussi qui a un métier très prenant, mais en fait, tout le temps libre qu'elle a, elle le consacre à faire des aventures. Alors, pas forcément que des compétitions, mais partir à vélo dans des pays qui ne sont pas forcément normalement visités. Elle part à vélo en Ouganda. Enfin, voilà, elle a cette envie de découverte et de se dépasser qui est assez fou. En fait, c'est ça, ces personnalités, je pense qu'on a rencontrées, on a l'impression que c'est inné, c'est naturel chez eux et chez elles. Et en fait, ça nous donne de la force et d'avancer aussi en se disant, bah tiens, eux, s'ils font ça, on va pas se plaindre pour quelques petits maux de jambes des petits problèmes.
Par rapport à ce que je disais, je rajoute Boris Girardi qu'on a interviewé. Donc, c'est un coureur qui a eu un accident de moto et donc il a été amputé d'une jambe. Donc, il nous raconte son accident. Après, le parcours avec les médecins, etc., où on lui dit, bah, vous n'allez jamais recourir, c'est bon, oubliez le sport, etc. Lui, dans sa tête, ce n'était pas possible. Et un an après son amputation, il a réussi à trouver ce qu'il fallait, les bonnes personnes, et il s'est mis à recourir, etc. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il fait des courses. Et donc, il est heureux, il a réussi ce qu'il voulait, alors qu'on lui donnait c'était pas gagné, qu'il allait rester chez lui toute sa vie.
Ça, c'est ce qu'on entend aussi souvent. Il ne faut pas écouter quand on a un rêve, il faut écouter personne. Je t'ai déjà entendu le dire aussi, Maud, pour ton voyage.
C'est vrai.
Et c'est quelque chose qu'on entend souvent, oui. Il y avait encore, quelque chose que je voulais vous demander, une question que vous allez peut-être reconnaître. Est-ce qu'il y a un porte-bonheur que vous emportez dans toutes vos courses? Arrosé. Fallait bien qu'on vous la pose un jour, cette question, non? Autrement. Pour ceux qui connaissent pas encore, ouf, mais j'espère que vous allez le découvrir. C'est une des questions qu'ils posent à tous leurs invités.
C'est ça.
Exactement. Donc j'en ai un. Je cours depuis toujours avec un short à fleurs. Donc c'était pendant 10 ans un short à fleurs rose. Là, je l'ai mis un peu au placard et j'en ai sorti un autre, un short à fleurs bleu maintenant. Mais voilà, je cours toujours avec ça. Sur mes courses.
Ok. Il y a des grands peintres comme ça qui sont avec la période rose, la période bleue, voilà.
Ouais, c'est ça.
Version peintre.
Exactement. Mais il est très reconnaissable comme ça. Les gens le reconnaissent et les gens qui sont dans l'organisation et même nous, on peut le reconnaître plus facilement parce que quand on fait l'assistance, c'est plus facile de le retrouver. Moi, j'ai pas vraiment, je crois pas avoir de gris-gris.
Non, bah t'as tes bracelets qui.
J'ai mes bracelets. Oui, on les voit pas, mais j'ai mes bracelets. Effectivement, j'oublie parce qu'en fait, ça fait partie de moi, je pense maintenant. C'est des bracelets que j'ai collectés au fur et à mesure de mes voyages depuis 2015.
Ok.
Et voilà, c'est dans chaque pays dans lequel je vais, j'achète un bracelet parce que c'est facile pour moi de le transporter, ça ne pesait pas grand-chose dans le sac, c'était plutôt sur moi. Enfin voilà, c'est un petit rituel pour pas oublier que j'ai fait cette aventure et qu'elle marque ma vie. Mais c'est vrai que je l'oublie, j'oublie.
Tellement
en fait,
ça fait partie de ça.
Voilà.
C'est
comme
tous
les
jours,
lunettes que je porterai, voilà, c'est ça.
Ah, c'est sympa. Et donc, je me dois aussi de vous demander si vous deviez rencontrer Maud et Fred, c'est ça? Qu'est-ce que vous leur diriez?
Moi, je leur dirais de modérer toutes les idées qu'ils ont pour réfléchir avant de mettre parfois des choses en place ou de vouloir faire des choses. Mais sinon, de continuer à croire et à essayer de vivre de leur passion. Voilà.
Et toi, Maud?
C'est vrai que c'est pas mal comme chose.
Interdit de recopier.
Ouais, je sais. Ouais, je pense que je leur dirais, lâchez pas. À un moment donné, ça va payer tous les efforts que vous avez faits parce que il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Et c'est pas grave, même si c'est dur de l'entendre, bah ça permet d'avancer. Et pas peur d'avoir parfois des échecs, je pense, pour pouvoir avancer. Ce qui est difficile aussi à encaisser, tant dans la vie en course, tant dans la vie en général.
Ouais, bon, tout bon. Ça fait quoi de répondre à vos propres questions?
C'est toujours bizarre, ouais.
On se rend compte que c'est des questions difficiles parfois.
Ouais.
Mais c'est sympa, les réponses sont sympas. À chaque fois, vous avez obtenu des réponses très sympas et j'aime beaucoup ce que vous avez dit aujourd'hui aussi. Est-ce qu'il y a des livres ou des films que vous recommanderiez pour continuer à penser trail après cette interview? Il y a des choses qui vous ont déjà plu ou des docus ou...
Il y a un bouquin que Emily Forsberg a écrit, ça s'appelle « Vivre et courir ». Et c'est assez simple parce qu'elle part de sa pratique de la course à pied, enfin du trail, de comment elle vit, comment elle se nourrit aussi. Parce que avec, donc c'est la compagne de Kylian Jornet, mais pas que, mais c'est une grande, voilà, c'est une grande traileuse aussi. Et en fait, elle parle de son mode de vie aussi, comment elle sait, comment elle vit, elle... cultive elle-même son potager, elle a des chèvres, enfin voilà, c'est vraiment un mode de vie auquel on pourrait facilement adhérer en se disant, bah tiens, pourquoi j'irais pas vivre sur ce bout de terrain, aller proche de la nature, courir et vivre un peu simplement. C'est vraiment une mentalité que j'aime bien et auquel j'aspire de par mon expérience et de par la pratique du trail.
Je mettrai dans les notes de l'épisode donc la référence de Maud, et puis je mettrai aussi peut-être pour ceux qui aiment bien rigoler Ultramarathon Man de Dean Karnazes, parce que c'est à périr de rire en plus. Donc lui avait fait 560 km en 80 heures 44 minutes sans dormir en 2005 par exemple. Donc c'est déjà pas un vétéran, il est toujours bien actif, mais voilà, il est là sur le circuit déjà depuis un certain temps. Et alors, il dit aussi que la course, ça permet de se sentir vraiment vivant, de trouver sa propre voie. Et puis alors, il dit, il doit ponctuellement répondre aux mêmes questions. Pourquoi vous faites ça? Comment vous le faites? Qu'est-ce que vous mangez? Et est-ce que vous êtes cinglé?
C'est vrai. Je pense que c'est bien résumé. C'est vraiment, c'est très, très bien résumé. Je pense que c'est 4-5 questions qu'on nous pose tout le temps. Et auxquelles, en fait, parfois, il est difficile de répondre parce que on a une réponse à un temps T et un instant donné. Et puis, à un autre moment de notre vie, ça va évoluer parce que rien n'est figé. On court pour une certaine raison à un moment et puis on continue à courir pour un autre, etc.
Et alors, j'aimais bien aussi qu'il dit ne cours pas avec tes jambes, cours avec ton cœur. Et d'après tout ce que vous avez dit, c'est vraiment ça.
Ah, c'est clairement ça. C'est clairement ça.
Ah, oui. Ah bah si tu cours avec tes jambes, ça va
c'est
pas
foutu,
très loin.
C'est foutu, hein.
On va pas aller loin.
Enfin, pas pour moi. Enfin, pour moi, c'est sûr que c'est foutu, hein.
Alors, carte blanche. Alors, quelles sont vos actualités du moment, les projets futurs? Donc, on va un petit peu parler de votre entreprise, de votre nouveau podcast. En plus, vous avez un club trail qui commence aussi. Donc voilà, allez-y, parlez-nous de tous ces projets-là qui sont en bouillonnement. Ouais. De votre côté.
Voilà, donc oui, le Club Trail, j'ai lancé ça en tout début d'année, là, pour essayer d'aider les gens qui veulent se mettre au trail à progresser. Donc, il y a différents épisodes. Il y a des épisodes où c'est des petits exercices que vous pouvez faire chez vous en 10 minutes facilement avec les enfants. Il y a des conseils que je donne, comment bien choisir ses chaussures, comment bien descendre. Il y a des séances d'entraînement où vous mettez l'épisode dans vos oreilles. Et vous partez sans montre et sans rien. Et moi, je vous dis tout ce qu'il faut faire en temps réel. Et je vous présente aussi des petits trails pour vous donner des idées de courses à faire.
Ah bah, j'ai pas fini de vous avoir dans les oreilles alors.
Et puis après, on a lancé récemment une nouvelle activité. C'est une partie formation associée à la pratique sportive. Donc, on propose des séjours sur des formations podcast, business. Et en fait, on associe ça à une initiation de la pratique sportive. C'est-à-dire que vous faites une demi-journée de formation sur la thématique et l'autre demi-journée, sur 3-4 jours, vous faites une initiation yoga, une initiation trail, une initiation VTT, escalade, voilà. L'idée, c'est de combiner les deux pour en faire une formation ludique et ça s'appelle Wella.
Et puis après, côté voyage, hein, avec Trail the World, ça commence à reprendre un peu. On a de nouveau des
demandes. Donc, c'est une agence de voyage spécialisée. Hein.
Spécialisée dans le trail.
On dit ce que c'était, ouais.
Exactement. Et agence de voyage. Alors, nous, on s'est spécialisé dans le trail. Donc, pour toutes les personnes qui veulent aller courir à l'étranger et qui ne veulent pas s'occuper de toute la logistique de voyage, nous, c'est notre métier, notre premier métier. Et puis après, il y a tous les événements aussi qu'on organise en France. Donc, c'est des événements au concept unique qui permettent à chacun de repousser ses limites, de se dépasser. À chacun sa limite, en fait, parce que vu que c'est des courses en boucle ou des allers-retours ou des défis comme ça, donc chacun peut trouver ses propres limites. On a aussi le Trail de France, c'est un peu, on voulait lancer comme le Tour de France vélo, mais en version trail.
Voilà, sympa, là, ouais.
On est sur ça aussi.
Tout à fait. Bah, je mettrai les liens vers tous vos projets et votre site, etc., pour qu'on puisse facilement vous retrouver. Ouais. Bah, non, mais de rien, c'est normal. C'est un plaisir. Bah, c'était vachement sympa de discuter avec vous aujourd'hui. Un énorme merci.
C'était un plaisir, ouais.
Merci à toi de nous avoir écoutés, hein, surtout, parce que, et de nous, encore de nous écouter encore plus, parce que, sachant que tu écoutes nos podcasts.
Non, je continuerai à vous écouter, j'aime vraiment beaucoup. Voilà.
Bah merci à toi, merci pour le temps accordé et pour cette interview. Nous, ça nous a fait plaisir d'être aussi de l'autre côté un peu du micro. Donc merci beaucoup.
Voilà, à la prochaine, j'espère.
Salut.
À bientôt.
Voilà, c'était génial d'avoir ces deux spécialistes pour parler d'un sport que j'aime beaucoup et de parler entre podcasteurs. Alors, ça, c'était cadeau. Tu retrouveras toutes les infos sur Maud et Fred et leurs nombreuses activités dans les notes de l'épisode et sur la page web où, comme tu le sais, je mets plein d'infos supplémentaires, des photos, des vidéos et sur ce coup-ci, un lien vers un bonus pour les gourmands qui voudraient les entendre encore un peu. On en fait papoter pendant 2 heures, donc pour ne pas vous faire un ultra trail à écouter, j'ai coupé quelques passages. On y parle entraînement, récup, ce que nous apprennent les succès comme les échecs, on y parle des grandes courses comme la Diagonale des Fous, l'UTMB, le Spartathlon, entre autres. Si cet épisode t'a plu, je te donne rendez-vous sur sa page web que tu retrouveras dans les notes ou tout simplement en allant sur storylifique.com/podcast. Partage-la sur tes réseaux sociaux, ce sera un super moyen de le faire découvrir par d'autres, ce qui permettra de planter encore plus d'arbres, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Toutes les infos sur ce projet sont sur le site web si tu veux en savoir plus. À bientôt !